Oui, je refais.
Ouais.
Je reprends le début.
Déambulation. Vous êtes sur RDIWA 107.5 FM et sur le www.rdwa.fr. Cette petite introduction pour une interview avec Michel Gentil que nous retrouvons à notre antenne. Salut Michel.
Bonjour.
Merci pour cette introduction à la guimbarde.
Guimbarde du Kyrgyzstan. Qui est une, ben en Asie, il y a beaucoup, beaucoup de guimbardes depuis très longtemps, quoique partout dans le monde, en fait. C'est un instrument qui date en fait, de la préhistoire. On ne sait pas trop qui l'a inventé, du coup. On en retrouve partout dès le début, quoi. Et la difficulté, c'est quand même que ça ne se conserve pas très bien. Donc, on a mis du temps à se rendre compte que c'était des guimbardes, quelquefois. Mais, par exemple, même les Gaulois jouaient de la guimbarde, par exemple. Ça, on le sait depuis une quinzaine d'années, sauf erreur.
Dès qu'on a maîtrisé le fer ?
Sûrement, mais même ça se faisait en bambou, ça se fait toujours en bambou également. Il y a d'autres matériaux comme ça qui fonctionnent bien.
Ouais, donc évidemment, on imagine que ça a du mal à se fossiliser, à rester.
Voilà, voilà, ce serait un grand coup de chance de tomber sur une guimbarde en bambou de l'époque.
Ouais. Présente-nous un petit peu plus cet instrument qui, je crois que quand même, les gens connaissent. Enfin, ça a été un peu popularisé grâce au groupe, en tout cas en France, hein, au groupe qui viennent des pays de l'Est,
oui,
puisque
ils
l'utilisent souvent. Et puis ça, c'est une musique qui commence à être assez populaire par
chez
nous.
Hein, c'est vrai, ça vient. La guimbarde, on l'entend par eux en ce moment, c'est vrai. Et ils ont eu ça, eux, aussi depuis très longtemps. Hein. L'Europe centrale, c'est attesté depuis très longtemps. C'est très vivace et ça existe aussi en Autriche. Les guimbardes qu'on trouve dans les magasins en France viennent d'Autriche. Elles ne sont pas de bonne qualité, je vous le dis tout de suite. Il vaut mieux... malheureusement, on n'a pas trop le choix en France en ce moment. Il faut aller voir quelques magasins comme des grands magasins spécialisés, enfin des grands magasins de musique de Lyon ou de Paris, pour parfois avoir la chance de tomber sur des modèles intéressants qui viennent d'ailleurs. Sinon, il y a des luthiers de guimbardes. Moi, j'achète mes guimbardes auprès d'un luthier de Hongrie qui a étudié ça pendant très très longtemps, très scientifiquement aussi, et qui a des résultats tout à fait extraordinaires.
Alors oui, parle-nous de ce côté scientifique, parce que alors la guimbarde, si les gens ne visualisent pas trop,
alors oui,
c'est une espèce de bout de métal tordu en haut.
Comme deux points d'interrogation qui se touchent verticalement, comme ça, à gauche, un côté gauche et un côté droit. Et au milieu, entre deux, une lame, un petit ressort très fin, qui va faire la vibration, qui remplace en fait les cordes vocales, comme dans le chant. Voilà ce que ça donne. Je ne sais pas si on entend grand-chose à la radio.
Si,
on entend le...
Elle fait un bruit de basse qui est absolument majestueux.
Alors pour entendre, alors ça c'est super, c'est bien entendre ça, j'ai pas le casque.
Mais
si,
mets donc
si
un
je mets
casque.
Ça, bah oui, si je mets ça contre mes dents, et la même chose, j'appuie contre les dents. Il y a une position très très précise, mais en même temps qu'à partir de 6 ans, tous les enfants arrivent à faire. Donc jusqu'à 666 ans, je pense. Pourvu qu'on ait une dent en haut et une dent en bas, je le précise.
Voilà,
voilà, tout le monde est concerné quand même. Et avec un dentier, ça fonctionne aussi. J'ai fait jouer des gens, voilà. Donc pas de problème.
Ça donne une autre résonance d'ailleurs, tiens, je me pose la question. Donne,
bah, ça influence évidemment la résonance. Alors il n'y a pas encore de fou qui ait imaginé un dentier en forme de vraiment qui joue dans le sens de la résonance, qui soit travaillé en fonction de la résonance. Je pense pas que il y a quelques dentistes peut-être qui ont tenté quelque chose. Je sais qu'il y a des dentistes qui ont tenté des choses pour des joueurs de saxophone qui avaient des problèmes de palais, etc. Mais au niveau même du son, de l'acoustique même des dentiers, je crois pas qu'il y ait encore eu d'études qui soient faites. Bon, ça se fera peut-être un jour. Bref, on appuie la guimbarde contre les dents et voilà ce qu'on entend.
Voilà, donc là ta bouche rentre en résonance.
Voilà,
t'as
et
la
ma
cavité aussi.
Et en fait, tout moi, finalement, tout mon corps, tout vibre finalement. Et c'est donc la même chose que dans le chant. C'est le chant sans les cordes vocales, la guimbarde, en fait. On applique dans ce sens-là, on peut dire que le ressort remplace vraiment les cordes vocales. Ensuite, c'est tout nous, l'instrument. Donc si on tend un peu la gorge dans un sens ou dans un autre, si on a une colonne vertébrale bien droite, ça résonnera a priori plutôt mieux. Ça va vibrer partout. Et donc en fonction de l'endroit du corps que l'on fait résonner plus ou moins, ça va donner un son ou un autre. Ça, c'est une chose qu'on apprend instinctivement, très naturellement, en jouant à force de le faire, et difficile de l'écrire puisqu'on n'écrit pas le son. Mais par contre, il y a aussi une mélodie qu'on peut faire, et là, on utilise la langue pour jouer la mélodie. La mélodie, on la fait comme ça avec la langue. Lorsqu'on met la langue très près des incisives, on la rapproche tout près des incisives, ça diminue, entre guillemets, la caisse de résonance que formerait la bouche, si vous voulez. Ben, vous la diminuez en avançant la langue contre les dents. Et là, vous avez la note la plus aiguë. Et à l'inverse, vous reculez dans la gorge au plus loin possible, et vous avez la note la plus grave. Donc par exemple, sur cette guimbarde-là, je vais pouvoir partir de plus bas. J'essaie de trouver la note la plus grave de celle-là.
Donc et là, t'as une troisième chose qui rentre en compte quand même.
Là, je t'écoute.
Le souffle.
Bien sûr, le souffle, tu as raison. Qui participe beaucoup au rythme. Moi, ma façon de faire, elle n'est pas unique, ce n'est pas moi qui l'ai inventé d'ailleurs. Mais je veux dire, il y a d'autres façons de faire tout à fait valables que je ne connais pas ou que je ne sais pas faire. Je ne suis pas un grand guimbardiste, sinon que j'adore la guimbarde depuis que j'ai 12 ans. Quoi. J'ai vu ça dans un concert, j'ai demandé au gars qui faisait ça comment ça marche. Il m'a dit c'est pas compliqué, tu mets ça contre lui, il m'a expliqué. Voilà. Le souffle intervient de cette façon pour moi. Je fais une sorte de halètement, un peu comme les chiens, où je sais qu'il y a eu un moment donné, c'était la mode chez les femmes enceintes de travailler un souffle comme ça. Et bien c'est exactement ça. Alors on fait comme ça, on a le son de base comme ça, hein. Et puis on fait. Alors après. Etc, etc. Donc là, le souffle comme ça. Ma technique consiste à faire que le doigt de la main droite, parce qu'il faut quand même expliquer que la guimbarde, quand on est droitier, se tient dans la main gauche et non pas dans la main droite. Hein. On la tient dans la main gauche, on l'applique contre les dents qui sont légèrement écartées, qui doivent garder cet écartement tout le temps. Et c'est la main droite, l'index de la main droite, qui va appuyer vers l'intérieur de la bouche le ressort, sans qu'il touche les dents lui. Donc il s'agit bien d'appuyer et non pas d'aller vers l'avant. C'est souvent, on a tendance à aller vers l'avant. En fait, c'est vers l'arrière. La guimbarde est faite pour être jouée vers l'arrière. A priori, la plupart des guimbardes. Cela dit, ça n'empêche pas qu'on puisse faire des allers-retours si on a envie. Il y a des guimbardes qui s'y prêtent très bien et des gens qui le font très très bien.
Moi, je suis un adepte de l'aller-retour, c'est pour ça que je
dis. Mais moi aussi, en fait, sur d'autres guimbardes, absolument. Donc le rythme, à partir de là, donc moi, ma technique consiste à ce que mon doigt de la main droite frappe le ressort toujours de façon régulière, donc avec un rythme, lui, toujours régulier. Et entre ces coups, je fais ces allers-retours avec la respiration. Je fais ces mouvements. Donc, régulier le coup et je joue avec mon aller-retour de respiration pour créer du rythme à l'intérieur de ce rythme de base.
Celle-là a quand même vraiment un son particulièrement grave. Alors, comparativement à celle avec laquelle tu as fait l'introduction, elle est bien plus grosse et surtout son métal qui forme ces deux points d'interrogation que tu citais au départ est plus gros, plus dense.
Plus gros, il est beaucoup plus gros, il y a beaucoup plus de matière. Quoi. Donc c'est, effectivement, ça doit jouer. Et puis aussi, la finesse du ressort joue sur le... Plus c'est fin, plus ce sera grave aussi. Ça va vibrer lentement, donc grave.
Et puis j'imagine que ça doit se tester, ils doivent toutes les tester pour vraiment être sûr qu'il y ait quand même un son recherché.
Bien
est-ce que
sûr,
c'est basé
elles sont accordées.
Oui, voilà.
Oui, elles sont accordées, absolument. Oui. Lui, il les accorde systématiquement. Mais ce luthier, mais il y en a plein.
Et ça se désaccorde
non. Par contre, il y a une usure au bout de quelques années, peut-être 10 ans, 15 ans. À un moment donné, le ressort casse.
Il casse.
À un moment donné, il devient peut-être un peu plus mou, il casse. Mais dès qu'il commence à devenir plus mou, dans les 3 minutes, il est cassé. En fait, voilà, il y a un moment comme ça.
Et alors, il y avait ce côté dans ton introduction un peu de la transe. Hein. C'est un instrument qui s'y prête quand même beaucoup.
Ah oui, bien sûr. Bien sûr, la guimbarde, c'est envoûtant. Et encore plus quand on en joue à deux ou à trois ou à quatre. Parce que tout ça s'interfère. Et le son, c'est vraiment un domaine où très profond de la musique. Ce qui fait que, effectivement, vous êtes pris par le son de l'autre. Et puis vous prenez aussi le son de l'autre. À un moment donné, on ne sait plus qui donne ce son-là, si c'est vous ou si c'est l'autre. Là, à ce moment-là, il y a un jeu qui se fait avec le son qui est tout à fait extraordinaire avec ce genre d'instrument. Et donc là, alors c'est une sorte de transe. Et puis, en fin de compte, quand je suis guitariste, je me sens dans une transe aussi qui n'est peut-être pas la même. Il doit y avoir plein de sortes de transes différentes. On peut parler de transe, c'est sûr.
Sur le côté un peu, c'est ce qu'on avait dit dans une précédente interview, histoire que les auditeurs commence à faire
le lien
avec ces démarrages, je l'espère, où justement on parlait de ce côté un peu disharmonique de l'instrument. La guimbarde fait partie de ces instruments qui produisent des notes dont on n'a pas les codes, et qui d'ailleurs, tu me prêterais ton instrument, je ne ferais pas le même son que toi.
Non, parce que tu as déjà un corps différent, donc ça va sonner autrement. Et puis après, effectivement, c'est tellement intime et complexe, notre intérieur, que c'est un peu notre intérieur qu'on montre, là, comme quand on chante, finalement. Donc ça sera facilement différent. Et c'est bien.
Alors, on a glissé comme ça vers la guitare.
Les sons, alors.
Oui, parce que donc... Michel, tu es guitariste, on le rappelle, Michel Gentil, tu es à Minglon, tu nous fais pas mal de concerts dans le secteur et puis beaucoup ailleurs aussi.
En fait, ce qui se passait, ça fait un moment que je n'avais pas joué et des gens, des amis me disent bah « Alors, quand est-ce que tu fais ton concert ?» Alors j'ai dit « Je vais en faire un à Stoughton » et voilà.
Tu es un peu obligé d'en faire un ou deux par an quand même dans le coin.
Non, mais ce n'est pas obligé, c'est un grand plaisir.
Oui.
Et puis il y a des amis qui me le demandent et puis en même temps, des gens qui ne me connaissent pas qui viennent.
La demande, je voulais dire.
En tout cas, là, c'est comme ça que ça s'est fait. Voilà.
D'accord.
Mais c'est normal, hein, ça fait 20 ans que je suis là, je suis connu comme le loup blanc. Il y a des gens qui aiment bien ma musique et qui de temps en temps me posent la question, quoi. Et à la fin de l'été, quand ils ont, pour certains d'entre eux, beaucoup bossé avec le tourisme, ils sont contents d'avoir un petit moment ou quelques moments comme ça. Ils se font quelques sorties et ça peut faire partie de ce qui leur plaît, quoi. Voilà, c'est destiné aussi aux autres, hein, parce qu'en fin de compte, il y a toutes sortes de gens et toutes sortes d'activités.
Alors je rappelle un petit peu aux auditeurs quand même, donc tu étais passé, on peut t'entendre deux fois déjà sur notre antenne, une première fois puisque nous avions parlé de la création de ton DVD de méthodologie de la guitare 12 cordes.
Ouais, comment jouer de la 12 cordes sans se faire trop mal aux doigts comme on fait d'habitude quand on l'apprend comme une 12 cordes, quoi.
Ouais.
Comme une 6 cordes.
Comme une 6 cordes.
Ouais, parce que souvent les gens, on commence par en jouer exactement comme une 6, ce qui est bien normal, mais au bout d'un moment il faut vite apprendre des techniques spécifiques pour pouvoir pas trop se fatiguer. Sinon, c'est éreintant.
Et à l'époque où on faisait cette interview, tu en étais à la sortie même du support.
Oui.
C'en est où un petit peu, juste pour qu'on se rappelle ?
Je suis assez content quand même, parce que j'en espérais pas tant. J'ai vendu une centaine de méthodes, donc c'est pas mal. Surtout, je les vends cher. C'est un travail de fond. C'est vrai qu'il m'a pris 20 ans, mais je les vends 60€, donc c'est plus cher que toutes les méthodes quasiment. Mais c'est vrai que c'est la seule aussi. Donc j'ai une petite chance là aussi de faire connaître cet instrument et de gagner un petit peu d'argent quand même, parce que ça m'a pris ça me remboursera sûrement pas de mon travail, mais si ça pouvait déjà le faire en partie, ce serait pas mal, quoi. Voilà.
Et connais-tu la source de ces personnes? personnes, enfin, comment ils t'ont connu, comment, est-ce que c'est vraiment des chineurs, des passionnés ou...
Alors il y a des gens qui m'ont, il y a un certain nombre de gens, et ça me fait vraiment plaisir, qui me passent un mail en me disant: ah, je suis tombé sur votre site, j'ai vu comment vous jouez la 12 cordes, j'ai une mini méthode en vidéo qui est sur le site, en première page, ils tombent dessus et quelquefois ça leur donne envie d'acheter une 12 cordes et de s'y mettre. Donc j'ai eu plusieurs depuis là, justement j'ai des échos comme ça, ça c'est super. Et puis j'ai aussi des échos qui sont vraiment, vraiment bien dans le sens de la qualité du travail que j'ai fait. Mmh. On n'est jamais sûr avant de le sortir. Là, il y a quand même maintenant y a pas mal de gens qui l'ont vu et je leur demandais leur avis ou ils m'ont donné. Et en général, j'ai que des avis positifs. Je n'ai pas eu de vraies critiques jusqu'à maintenant. Cela dit, il faut que j'attende sûrement des années pour en avoir parce que c'est quand même un travail de fond et puis les gens ne vont pas oser me le dire tout de suite. Ça se comprend.
Mais des professionnels, en tout cas, voilà, par exemple, des professionnels de la 12 cordes, s'il en existe.
Il en existe
bien
pas trop.
Bah oui.
Non, tous les gens qui sont passionnés de 12 cordes sont super heureux de ce travail. Ils me disent que ça leur donne envie d'apprendre. Et ceux qui ne connaissent pas, ça leur donne envie de... Le ton du texte même leur donne envie de s'y mettre. Il y a un côté, donc ça, c'est pas apparemment... Voilà. Et puis les exercices eux-mêmes semblent logiques pour tout le monde. Après, il y a un niveau de difficulté, mais tout le monde trouve ça bien. Tout le monde trouve ça bien. Donc moi, je suis content. Ça me rassure un peu parce que c'était quand même une première et c'est pas évident. La plus grosse difficulté étant d'imaginer la logique même pédagogique, puisque c'était jamais
fait. C'est difficile d'enseigner.
C'est ça. Et puis surtout quelque chose qui n'a jamais été enseigné, parce que ça ne s'est jamais fait. Donc je n'avais pas de référence, c'était ça la difficulté et mon incertitude.
Et puis il ne fallait pas tomber dans le piège des références des Xème méthodes faites en guitare 6 cordes justement.
Ça n'a rien à voir, donc ce sont des techniques spécifiques différentes, ça a beaucoup à voir, mais on reprend la 12 cordes, le jeu de la 12 cordes reprend celui de la 6 et certaines techniques spécifiques se rajoutent, se superposent à ces techniques-là. Donc cette méthode-là parle un peu du jeu d'ensemble. Après, il y a des morceaux qui donnent quelques idées de ce que ça peut donner concrètement, quoi. Donc, voilà.
Et alors, du coup, pour nous faire mentir, aujourd'hui, tu as amené une 6 cordes. Hein,
ben oui, parce que j'ai joué beaucoup de 12 la dernière fois, mais j'ai quand même la 12, je terminerai par un morceau de 12 sur le temps. Ce qui n'est même pas sûr, finalement, parce qu'on est très bavard.
Ça ira.
Surtout qu'on a oublié, finalement, d'annoncer la date et le lieu du concert à Maglon.
Voilà. C'est pour que les gens, ils attendent.
Oui, c'est ça.
Donc, tu vas être en concert à Maglon bientôt, Michel Gentil.
Voilà, le 6 octobre, à la salle des fêtes de Maglon, à 18h. Fin d'après-midi, comme ça, pour ne pas casser l'après-midi. S'il fait beau, on attend de sortir. À 18h, le concert. Et puis, après le concert, mes voisins et amis amènent de quoi déguster deux, trois petits gâteaux. Et puis également, peut-être vous aurez l'occasion de goûter le fameux kir minglonais. Mais là, je ne vous en dis pas plus parce que c'est la surprise, on va dire.
Thank you.
Ah, merci.
Improvisation, pas...
Ça tombe bien. Glissons là-dessus musicalement. On avait déjà commencé un peu à en parler,
oui,
justement dans.
Oui, un petit peu l'autre fois.
Voilà, ouais. Ce côté. Ouais. Comment je note de folk un peu, peut-être soit touché de spiritualité. Encore que je suis bien une des dernières personnes à pouvoir en parler puisque on connaît aussi comme le loup blanc pour être un anti.
Ouais, mais... on est tous les dernières personnes à pouvoir en parler, sûrement.
Ouais, voilà.
Donc, on t'en en parler.
Mais en tout cas, un folk qui voyage pas mal. Mm. Moi, qui, je l'avais déjà cité la dernière fois, mais me fait penser pas mal à des artistes australiens. Et puis, évidemment, quelques pointures américaines. Là, tu nous fais une impro. Et ouais. Dans tes concerts, tu fais des impros, des morceaux que tu maîtrises aussi.
Oui, les deux. Les deux.
Les deux.
Oui, les deux, c'est ça.
Et puis, laisse glisser.
Les deux et les entre-deux. C'est-à-dire qu'il y a aussi un troisième catégorie qui
C'est le morceau qui vrille, quoi.
Ouais, c'est ça. C'est le morceau que, bon, il peut partir à un endroit ou deux ou trois. Et puis, si je veux, je me rattrape. Je sais très bien comment me rattraper et retrouver un équilibre, pas perdre l'équilibre. Oui, il y a tous les intermédiaires, en fait. L'idéal pour moi étant d'improviser au maximum, mon rêve de musicien, c'est ce que je disais je crois l'autre fois, c'est ça pour moi la grande musique, c'est l'improvisation, c'est celle du moment présent et c'est celle qui ne peut être que sincère du coup, elle ne peut être que comme ça et c'est pour ça qu'elle peut parfois toucher réellement, beaucoup plus profondément qu'une musique purement esthétique du moment et qui va passer ça peut-être de mode justement, c'est différent, c'est pas la même démarche là, il y a des démarches différentes.
Mais si on devait casser un petit peu le mythe, est-ce que tu pars quand même avec des bases qui sont toujours les tiennes?
Oui, quand même, bien sûr.
Il y a un
sûr,
truc qui fait que
ouais, dans ce sens-là, faut
t'as une
casser,
sorte de code quand même, non?
Oui, absolument. C'est-à-dire que ce qui est un peu bizarre, c'est que dans mon cas, c'est que finalement, on peut peut-être dire, c'est pas présomptueux de ma part de l'annoncer comme ça à la radio, on peut sûrement dire que j'ai mon style. Et entre guillemets, j'ai inventé mon style. Et il y a peu de gens qui ont fait ça, très très peu. Et quand on fait ça, on est fatalement nous-mêmes. Et donc, c'est en étant nous-mêmes qu'on arrive à l'inventer. Et d'ailleurs, c'est ça que je trouve bizarre, c'est qu'on devrait tous être plus nous-mêmes. Lorsqu'on est plus nous-mêmes, on est plus différent des autres, évidemment. C'est pour ça qu'on invente notre propre style. Ça n'a rien d'extraordinaire en soi. Et pourtant, il y a peu de gens qui le font. Et donc, quand on invente un style, on est dedans à fond, comme ça. Et après, ça évolue si on évolue. Et ça évolue lentement à notre niveau, à notre vitesse, plutôt, à nous, personnels. Avec, bien sûr, et ça, c'est le danger de tous les artistes, c'est qu'à un moment donné, ils n'évoluent plus, ils se posent, et à ce moment-là, bah, évidemment, il n'exprime plus rien. Ça ne changera pas fondamentalement mon style de musique quand je serai encore un peu plus vieux. Il n'y aura pas de révolution, je pense, là-dedans. J'aimerais bien qu'il y en ait. Peut-être, ça serait une ouverture. Il ne faut pas en attendre. Je pense que ça change à l'intérieur. On peut percevoir ce changement, sûrement. Mais c'est, voilà, c'est, je ne vais pas me mettre à faire, juste pour m'amuser, un style totalement différent. Mm-hmm. La seule chose que j'espère, c'est quand même, c'est pour ça que ça vaut le coup de continuer, sinon ça ne vaut pas le coup, c'est d'améliorer un peu ça et d'être plus, par exemple, dans mes improvisations, plus construit, pouvoir les faire durer plus longtemps. C'est pour ça que mon rêve de musicien concertiste, c'est de pouvoir faire tout le concert en improvisation. Mais il est évident que ce n'est pas le cas et ce ne sera peut-être jamais, je ne sais pas, j'espère un jour, enfin je m'améliore là-dedans, je le sens bien avec les années. Mais j'ai tout un background, c'est-à-dire je peux faire aussi un concert avec uniquement des morceaux composés. Et donc, à certains un moment, selon comment ça s'est passé, voilà, je place un morceau qui va réveiller s'il y a besoin ou qui va changer l'atmosphère et la relancer autrement. Enfin bref, je construis mon concert un peu au fur et à mesure aussi, du coup. Hein, je l'improvise un
donc
petit peu.
Donc vraiment en fonction du public.
En fonction du public, c'est ça. Mais c'est vrai que j'ai un fil conducteur général qui peut être là en background sur lequel je peux me rattraper si j'ai à un moment donné un blanc ou une interrogation là-dessus. Quoi.
C'est assez marrant cette question sur l'improvisation parce qu'on se dit toujours oui, les gens improvisent. Dans quel état est-ce qu'on doit mettre son cerveau? Dans quel état mets-tu le tien pour sortir de ce qui est effectivement déjà écrit, complètement codé, qui finalement est peut-être presque reposant à jouer? C'est un truc que tu connais par cœur. Bon,
oui.
Voilà.
Oui. C'est un autre état. C'est deux états différents, interprète et improvisateur, qui peuvent se mélanger, comme je disais tout à l'heure. Mais quand on est interprète, on essaie de retrouver l'ambiance du morceau, mais on y est aidé par la qualité de construction même du morceau. Parce qu'il a été rodé ce morceau-là, il a été travaillé, mis au point. On sait que ça marche, on sait qu'il tient la route. Bon, même si on n'est pas trop bon, et comme il tient la route, ça va passer. Ouais. Mais l'idéal, c'est d'être vachement bon. Et pour l'être, il faudrait retrouver idéalement l'inspiration originelle. Ouais. Alors, il faut savoir
l'état dans lequel était l'autre. Alors,
dans lequel était celui qui a
le compositeur.
Voilà. Or, ça, évidemment, c'est impossible. Alors, au moins, retrouver notre propre état, qui là-dedans s'en rapproche le plus, qui nous plaît le plus. Et c'est pas toujours facile non plus. Dans mes interprétations de mes propres compositions, hein, je prends un de mes morceaux que j'ai composé il y a 15 ans, je le joue. Bon, il est jamais pareil. Et je ne retrouve jamais l'inspiration originelle. Par contre, on peut, avec le temps aussi, trouver des nouvelles inspirations qui s'accrochent dessus, qui se mettent dessus, qui fait qu'on a encore envie de le jouer. Bon, c'est intéressant. Hein, moi, j'aime bien l'interprétation aussi. Mais alors, l'improvisation, idéalement, pour moi, mais je parle d'un idéal, hein, c'est un... Il n'y a rien, on n'a rien pensé à l'avance. On a l'instrument, on fait une note, et puis à partir de là, on voit quelle sera la note qui a envie de venir derrière.
Ouais, c'est ça que je veux comprendre.
Comment tu dis quelle est la note? Je te le fais en parlant. J'ai pas regardé mon moment, je sais pas où je suis.
Un truc qui fait que tu vas faire cet arpège comme ça.
Ouais, j'ai ce petit tic là. Voilà, je peux toujours le placer, ça va toujours bien. Alors, mais il y a la technique, il y a à la fois la technique et la mémoire du doigt. Et la mémoire des doigts qui est là aussi. Il y a tout qui joue, tout joue. Il y a un mélange de notre technique, de notre mémoire, de ce qu'on a travaillé pendant des années, et puis aussi de notre capacité, lorsqu'on entend une note, que le doigt soit capable de la faire tout de suite. Donc ça, il faut avoir travaillé des gammes pendant longtemps, les avoir tournées dans tous les sens. Les Indiens font ça merveilleusement bien, dans tous les sens, ils tournent les gammes, dans le but que lorsqu'il y a une note qu'ils ont envie, tac, elle arrive. Quoi. Et c'est ça,
alors, en fait, tes doigts, parfois, se laissent glisser tout seuls aussi.
Oui, ils ont la mémoire du geste, ils savent que pour entendre la note suivante, plaf, c'est deux cases au-dessus, ça vient tout seul, pas besoin de réfléchir. Et du coup, il y a une fluidité qui se fait. On arrive mieux à jouer notre sensation du moment. Mmh. Moi, j'étais dès le début dans cet état-là et je construisais pas du tout mes trucs. Il y avait des moments, c'était super, des moments vraiment. Et puis d'un seul coup, il n'y a plus rien. Et dans mes concerts, au début, c'était un peu j'ai eu un petit peu aussi quelques critiques de ce côté. Et il a fallu que j'apprenne à organiser mes improvisations tout en improvisant, quoi. C'est-à-dire dans le mouvement, quoi. Et ça se fait. Et ça s'apprend aussi. C'est curieux comme travail, parce que c'est un travail qui relie vraiment le côté organisationnel au côté spontané, au côté spontané, littéralement spontané. Et ça se fait, quoi. On y arrive.
Alors peut-on dire qu'il n'y a jamais de vraie, en fait, improvisation, et t'as juste une possibilité par la technique de laisser glisser le cerveau par moment,
ou bien par le cerveau de laisser glisser la technique aussi, c'est une sensation qui est là, et puis on veut entendre cette note, et puis instinctivement elle arrive, parce que j'ai tellement travaillé que notre doigt il arrive à l'endroit où on entend. Alors là, on peut parfois être inspiré vraiment dans l'inspiration. Inspiration, c'est vraiment le moment présent, quoi. C'est en fait, les Indiens pensent que c'est, ils disent ça comme ça, que l'ambiance est déjà là et que les musiciens sont là pour la traduire en note de musique, quoi.
Voir la magnifier.
Et ben, ça doit être ça l'inspiration, c'est pouvoir être assez transparent pour sentir ce qui est déjà là en réalité. Mmh. Avec pour nous rassurer, ce que me disait mon maître Ali Dede Altintash, un grand maître de musique turque d'improvisation, que il me disait, de toute façon, quand on improvise, parce que on a tous peur de pas savoir ce qui va arriver derrière, on fait une note et puis par peur souvent on en rajoute parce que on met trop de technique,
on
perd la concentration, on perd l'inspiration. Alors il me disait, tu joues, si t'as plus d'idées, t'arrêtes, t'inquiète pas, ça va revenir. Voilà,
tu respires, tu dis bonsoir aux gens.
Ben non, tu dis rien, tu fais un silence de musique. Et de toute façon, il y a quelque chose qui vient derrière, de toute façon. Donc il faut simplement l'attendre. Et ça peut être des fois long, ça peut sembler long, mais c'est jamais perdu, parce que le silence qui a traversé ce moment-là, il a préparé cette phrase qui arrive. Donc, et là, c'est carrément formidable, au contraire. Ça décuple la force de l'improvisation.
Et puis on est souvent dans ce type de concert, à attendre cette possibilité, à laisser glisser un...
Ouais,
tu te fais beaucoup applaudir et à peine la note finie.
Non, justement.
Les gens se laissent glisser.
Ouais. C'est d'ailleurs pour moi vraiment un test, savoir si j'ai vraiment bien emmené les gens dans mon univers à fond, loin ou pas. C'est le temps qu'ils mettent à revenir à la réalité pour se dire, ah, au fait, normalement, on applaudit là. Et ça, c'est génial à sentir quand c'est long. On ne devrait pas applaudir, c'est une mauvaise habitude occidentale, parce que les applaudissements créent des hyperaigus, c'est extrêmement puissant, donc ça assourdit l'oreille, et on a l'oreille qui est éblouie pendant un certain nombre de minutes, et voire d'heures, pour certaines fréquences, qui fait qu'on entend moins bien la musique derrière. Donc il vaut mieux pas, à mon avis, applaudir. Moi j'aime bien ce que font les Indiens, ils font comme quand ils goûtent du beurre au chocolat, ils font «
Ouais.
Et quand vous avez une salle de 500 personnes qui fait ça, je vous jure, c'est impressionnant. Et c'est un plaisir énorme.
Mais ça, je crois qu'il faut effectivement le dire partout et tout le temps. Pour terminer avec ce côté improvisation, souvent on dit les guitaristes très bons connaissent tellement aussi la technique, et c'est ce que tu nous disais, que tu vas te promener sur le manche.
Un peu plus facilement, disons, on n'est jamais tranquille. Mais l'idéal quand on improvise, donc normalement on devrait être complètement en transe, et on est en transe, c'est une transe, c'est vraiment une transe. D'ailleurs, on transpire dans cette transe-là. Moi je perds un litre par concert, un kilo, je me pèse avant, après, donc je bois avant et après. On est à la fois dans cette transe, et en même temps, l'organisationnel est quand même là. On ne perd pas le fil. Et c'est ça, là, il y a une lisière, il y a quelque chose qu'on apprend. Et d'ailleurs, je me demande ce qui se passe s'il n'y a pas cette lisière. Mm-hmm. Parce que la transe, jusqu'où peut-elle aller après,
peut-on rester coincé dans l'improvisation?
Ça, c'est la question piège, parce que je ne saurais pas y répondre. Oh, j'en sais rien. Je ne réponds pas à ça. C'est une question à laquelle je ne sais pas répondre.
Non, moi non plus. Mais est-ce que, par exemple, il t'est arrivé de rester bloqué dans des impros plus d'une heure, deux heures chez toi,
Ah ben là,
à ne plus décoller, manger peut-être,
ah ben ça, c'est clair,
oublier
c'est clair.
De se lever
mais
pour pisser.
Tous les musiciens connaissent ça, c'est ça le côté créatif. Mais ça, cet état-là, que tous les musiciens connaissent, même ceux qui n'ont pas fait de concert et qui n'en font jamais, qui n'ont pas envie d'en faire pour certains d'entre eux, ou qui ont envie et qui n'en feront pas, il faut qu'ils disent bien une chose, c'est que cet état-là nous nourrit. Et c'est ce qui nous permet de vivre et de nous grandir. Et là, on sort de cet état en meilleur état qu'en y entrant. Ça nous grandit, ça nous rend meilleur, et on est joyeux. Je ne sais pas si tout le monde connaît cette sensation. On a plaqué trois accords pendant deux heures, mais n'empêche qu'on a pris un pied pas possible. Et ce pied, on en sort de là. Ah, on est détendu, clair d'esprit, on est copain avec tout le monde facilement, on sent mieux autour comment ça se passe, on est mieux là, ici et maintenant. Donc, c'est vraiment une amélioration de notre condition humaine. Donc, la musique, c'est ça, c'est d'abord ça, c'est un fil de vie, c'est ça. Voilà, c'est le fil de vie, quoi. C'est d'abord pour nous, et évidemment que c'est pour les autres en même temps, et que ça va se mélanger avec les autres, quoi. Voilà.
Mais alors, comment expliques-tu qu'il y ait plein de gens qui n'écoutent pas de musique ?
Écoute, là, je pense qu'en France, on a un problème particulier. Je n'ai jamais entendu qu'en France, quelqu'un dire « Ah, moi, j'aime pas la musique ». J'ai jamais entendu ça ailleurs, à l'étranger, jamais.
Même aux États-Unis ?
Non, les gens, tout le monde est sensible à la musique. C'est comme tout le monde est sensible à la danse. Tous les enfants, d'ailleurs, on le voit bien, les enfants français sont tous, sans exception, sensibles à la musique, à la danse. C'est comme respirer, il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors après, on crée des blocages, on crée des problèmes. Il y en a toujours un pour dire « Ah, mais tu m'embêtes avec ton violon qui est faux. Ah, mais t'as pas le temps de faire de la musique, c'est pas sérieux. Il vaudrait mieux que tu travailles tes devoirs. » Et finalement, on a en France une mentalité là-dessus, on va dire, un peu sous-développée par rapport à l'étranger.
J'ai une brimade. De le dire,
mais on est un peu en retard là-dessus. On est un peu à côté de la plaque par rapport à la musique. Un peu à côté de la plaque. Je parle d'une manière très générale. Il y a des gens fabuleux en France. Puis on n'est pas moins doués musicalement que les autres. Mais c'est plutôt culturel. C'est plutôt culturel. Il y a la fable de la fontaine qui est toujours là, la fourmi, la cigale et la fourmi. On a tous intégré que la fourmi, elle avait raison d'être sérieuse et que la cigale n'avait vraiment pas raison de s'amuser pendant l'été. Parce qu'il y a amuser dans la musique, et ça a l'air de gêner beaucoup les gens qui ont une idée du travail un petit peu étriquée, on va dire.
C'est pas sérieux ce que vous faites, etc.
Voilà, alors que c'est en fait extrêmement sérieux finalement. Mais pour faire les choses les plus sérieuses, ça passe par l'amusement, c'est évident aussi. Et peut-être que certaines personnes là-dessus auraient à apprendre à rire, à rigoler, à pas être sérieuses pour pouvoir être après beaucoup plus sérieuse, ou même en même temps, des fois l'un va avec l'autre, en réalité c'est les deux ensemble ou rien du tout.
Tu parlais de cette frontière qu'il y avait entre l'état conscient, donc technique,
oui,
et puis l'état bêta de transe.
Oui.
Dans l'improvisation, et ben là on est pile à la frontière entre, tu disais, l'amusement ou pas. En fait, en réalité, le musicien a touché peut-être un peu un des métiers, il y en a plusieurs, qui est à la fois dans le travail, mais aussi dans la passion.
Oui, bien sûr. Bien sûr, on ne peut pas faire mieux quelque chose qu'en étant passionné, hein, c'est clair. Donc quand on travaille quelque chose qu'on n'aime pas faire, de toute façon, ce ne sera pas formidable. Peu de gens se rendent compte en France, et ça fait partie, là aussi, on est un peu en retard, je trouve, en France par rapport à d'autres pays, du côté ingrat de ce métier également, qui existe. On le paye, voire même on le paye très cher quand on est passionné dans cette période sociale-là. Hein, et pas, pour le coup, là, pas seulement les musiciens, mais tous les passionnés qui veulent vraiment continuer leur truc au bout. Non, s'ils ne rentrent pas dans un cadre, c'est encore plus difficile aujourd'hui que ça l'était il y a 30 ans.
Donc, bon, j'en reviens au même terme que tout à l'heure, il y a une brimade de la musique en France.
Non,
peut-être. Dans d'autres endroits. Dans
un manque de naturel, tout simplement. Mmh. C'est-à-dire, je crois qu'on a intellectualisé les choses. Il y a aussi le problème des conservatoires qui vraiment a tort de vouloir imposer aux enfants le solfège avant même d'avoir touché l'instrument. Il faut commencer par l'amusement en musique pour ensuite, afin de mieux s'amuser, avoir envie d'apprendre le solfège et d'autres choses théoriques. Et donc, le côté mathématique des choses. Le côté mathématique des choses, il est passionnant lorsqu'on s'amuse. Il n'y a pas de contradiction entre les deux, au contraire. Il y a peut-être un problème pédagogique qui veut que les conservatoires, pour faire leur... Il y a trop de demandes pour rentrer dans les conservatoires. Alors, tout ce qu'on sait faire en France, c'est des examens écrits. Donc, allez hop, on leur fait 2 ans de solfège ou 1 an dans le meilleur des cas. Et les pauvres gamins, ils croient que la musique, c'est un truc... Et voilà, et ça sélectionne. Mmh. Et du coup, les gamins, ils sont axés sur le côté purement mathématique de la musique, ça les emmerde. Mmh. Et en fait, ils ne comprennent pas, surtout, c'est pour ça que ça les embête. C'est qu'ils ne voient pas le lien, ils ne peuvent pas être dedans, ce n'est pas possible. Je pense qu'on abîme plutôt les enfants à vouloir faire ça qu'autre chose. Ce qui m'amenait à dire une chose très osée, mais que je continue de penser, c'est qu'à la limite, au stade où on en est, si ça ne veut pas évoluer plus que ça, il y a des gens qui sont super, mais le système entier, s'il n'existait pas du tout, peut-être qu'on serait meilleur musicien. Peut-être qu'il n'y a pas de conservatoire. Peut-être qu'on serait meilleur musicien, c'est possible.
Et puis on pousserait probablement les instruments au-delà des limites qu'on les connaît, qu'on leur connaît.
Ça aiderait à tout, ça aiderait la créativité, ça aiderait bien sûr. Mais autrefois, les gens avaient tous dans leur famille un musicien. Il n'y avait pas autant de conservatoires, de gens qui allaient au conservatoire. Et en fin de compte, on était peut-être plus musiciens dans un certain sens.
Ouais. Ça, c'est vrai, ça se mesure assez facilement.
D'ailleurs. Ouais.
Et puis pendant que tu accordes, je rappelle que tu es en concert à Minglon
le samedi 6 octobre
voilà,
à 18h, voilà, à la salle des fêtes de Minglon. J'ai hésité entre la salle des fêtes et le temple. Le temple a une très belle résonance, mais à mon sens, un tout petit peu longue pour qu'on entende facilement les attaques du guitariste quand il joue vite. Donc j'ai préféré la salle des fêtes qui a l'air, elle, d'avoir un son vraiment bien neutre et justement assez, suffisamment bonne qualité pour faire un beau concert avec un son très clair. Donc ça risque d'être très joli en fait.
Et tu seras acoustique ?
Ben écoute, si je peux, je reste acoustique. J'amènerai mes petites enceintes de studio qui me permettent de rehausser le niveau si besoin, mais ce sera peut-être pas nécessaire. Et cette salle, elle est bien en fait. Et il y a un bar derrière qui est bien placé, elle est bien agencée. Je me dis, Minglon, c'est quand même le centre du Diois, puisque vous avez Luc...
Je crois,
hein,
c'est bien fait.
Luc, Di et Châtillon, donc Minglon doit pouvoir attirer tout le Diois. Un de ces quatre, de temps en temps, quand il y a un de mes amis musiciens qui passe dans la région, je pourrais, pourquoi pas, organiser un concert avec lui, comme j'ai pu le faire au Baradi, comme je continuerai de temps en temps de faire. Voilà.
C'est ce que je voulais citer aussi pour te permettre de continuer ton accordage.
Oui.
On dit un accordage, d'accorder ta guitare.
Oui.
Et donc, l'autre émission, puisque je l'avais dit un petit peu en introduction, l'autre émission où on peut te retrouver, c'est même pas vraiment une émission, on peut te retrouver aussi sur RDWA dans la partie enregistrement. Puisque donc tu avais fait ce concert avec Alexei Agui au Baradi. Là aussi, il y a une grande partie d'improvisation entre vous deux. Vous n'allez pas au premier concert. Hein.
En fait, on se connaît relativement peu encore. Hein, on a pas.
Ouais. Mais musicalement, ça va.
Musicalement, ça va. Et ça peut s'améliorer, je suis sûr. Mais Alexis, il est extraordinaire par sa capacité de voir en 2 temps, 3 mouvements l'organisation du morceau, la tonalité, quand est-ce que ça change.
Alors, c'est toi qui étais leader.
Dans un sens, oui, pas tout le temps.
C'est toi qui envoyais le thème, je veux dire. Et
c'était surtout mes thèmes qu'on a joués.
Mais
il en avait proposé 2-3. Et c'est ma faute, c'est parce que j'étais moins adaptable que lui, justement. Et lui s'est adapté à mes morceaux avec une facilité énorme.
Et lui, il sort du conservatoire.
Il sort du conservatoire, absolument. Oui. Non, mais lui, il est impressionnant parce qu'il dirige des orchestres symphoniques pour lesquels il compose la musique, pour des films en particulier.
Ouais.
Il fait ça depuis des années et des années.
Puis après, il fait du free jazz.
Et pour s'amuser un peu, parce que ça le démange de faire des concerts, il a son groupe qui est quand même un groupe d'un super niveau et il saute sur scène comme les Pink Floyd faisaient, pas trop les Pink Floyd mais d'autres, les Who.
Ouais.
Là au fond de la Sibérie pour un public de centrale nucléaire à un moment donné parce que le gouvernement russe l'embauche pour faire ça. Et là les gars taïga, ils sont 4000 dans la taïga quelque part, pas moins 50. Et puis donc lui, il joue là. Le lendemain, il fait ça 4-5 jours, puis il rentre. Et puis bon, il se remet la musique de film. Voilà. Enfin, il est impressionnant, Alexis. Il est d'autant plus impressionnant. Pour moi, c'est un cow-boy. C'est un cow-boy. Et si vous le regardez, il n'a pas du tout la tronche d'un cow-boy, justement. Et c'est un vrai.
Belle tête de russe.
C'est un vrai, justement, dans ce sens-là. C'est vraiment un peu cow-boy, quand même, que d'aller au fin fond de la Sibérie.
La Russie a aussi un western. Enfin, là, c'est un estern.
Oui, c'est un estern, mais ça se ressemble un peu, c'est ça, ouais. Justement. Ça se ressemble un peu par ces immensités, par le côté désertique, et puis par le côté rude, surtout, de l'affaire, quoi. Ouais. Parce que le camion, il tombe en panne, ils sont morts, hein, et par moins 50. T'es mort, donc il faut pas que ça tombe en panne. Il doit y avoir des problèmes monstrueux au niveau technologique. Je sais pas si les hélicoptères se baladent par moins 50, à vrai dire, j'en sais rien. Non. Alors un petit morceau, si vous voulez, que j'ai appelé Clapton, du nom du fameux musicien Clapton, qui chanteur de blues, que j'ai appelé comme ça parce qu'il y a une partie du thème. Je vous le montre, comme ça vous allez la retrouver dans le morceau, qui fait ça, que je lui ai pas repiqué, mais ça c'est vraiment son style, quoi. Alors maintenant je commence le morceau.
Bien capté jusqu'au bout. Alors, toujours avec Michel Gentil, et c'est le morceau Clapton, donc ça c'est un morceau que tu as écrit.
Oui, ça c'est écrit, voilà, par note, voilà, ça bouge pas.
À ce concert du 6 octobre, 18h, oui, à Minglon, tu seras avec tes deux guitares aussi ?
Oui, et puis j'en ai trois autres également.
Enfin, je veux dire les deux styles de guitare.
Ah oui, tout à fait, oui. Mm. J'ai toujours, dans mes concerts, j'ai toujours une partie 6 cordes quand même, parce que la 12 cordes, c'est très ample, et ça repose de cette amplitude un peu. C'est bien, à un moment donné, de resserrer le son.
Et qu'as-tu d'autre testé avec manche ?
Oh ben j'ai rencontré une guitare à cordes sans fret pour glisser les doigts sur le manche, comme ça se fait sur le sarod indien. C'est pas facile parce que c'est les ongles qui doivent glisser, et ça c'est pas très puissant, donc mais c'est très intéressant et très précis, parce que justement là on arrive à trouver la vraie justesse, la justesse naturelle, comme on dirait. Mm. La musique non tempérée, quand on a envie d'en faire, comme de la musique traditionnelle par exemple. Qu'est-ce que j'ai essayé ? Toutes sortes de choses. Il y avait un gars à Issoudun qui avait imaginé une guitare avec, sur laquelle on pouvait rajouter justement deux clés supplémentaires, et puis un mini chevalet du côté du chevalet, et rajouter deux cordes, et qui étaient des cordes basses. J'ai vu ça à Issoudun il y a quelques années. Un jeune luthier qui se lançait là-dedans. Il y a toutes sortes de choses qui ont été faites. Il y a un gars, j'avais vu au salon de la guitare de Montréal, qui avait imaginé une guitare qui peut se transformer en banjo. Alors lui, ce qu'il fait, il change la table d'harmonie, puisqu'on sait que sur la guitare, regarde, c'est la table d'harmonie, donc la planche qu'on voit de face, hein, quand on la regarde.
Avec le trou.
Avec le trou, voilà, c'est ça. C'est elle qui donne l'essentiel du son. Alors le gars, il s'est dit, bon, bah tiens, je vais transformer ma guitare en banjo, puis après, ça va être guitare électrique, et puis après, ça va être ci et ça. Il a 4-5 guitares à sa disposition dans le même corps, et on change juste une partie de la table d'harmonie, une grosse partie de la table d'harmonie. J'ai surtout récemment, si ça t'intéresse que j'en parle, si ça peut intéresser des auditeurs, rencontré un luthier qui s'appelle Gérard Audirac. Assez extraordinaire rencontre parce que lui, il est autodidacte, comme moi d'ailleurs dans mon domaine, mais lui dans un autre domaine, dans le domaine de la lutherie. Il a été luthier pendant 20 ans. Et il a eu des problèmes à un moment donné qui ont fait dans sa vie privée, qui l'ont fait remettre en question complètement. Et il s'est dit, oh zut, j'en ai marre après tout de faire ces guitares comme tout le monde fait. Je vais faire vraiment ce que j'ai envie, la guitare comme je la rêve, ce qu'il n'avait jamais osé faire. Peut-être beaucoup de luthiers en sont-ils dans ce cas-là. Je me pose la question du coup. Et du coup, il a commencé à étudier comment résonnait le bois d'une manière tout à fait scientifique avec l'aide d'ordinateurs et puis de scientifiques de ses amis. Puis il a étudié ce que les scientifiques avaient trouvé. Et il en a déduit une forme de guitare et une technologie toujours à base de bois, toujours du bois hein, bien sûr, en guitare classique et puis récemment en guitare folk, absolument extraordinaire. Ce type-là, il fait vibrer, la guitare sonne plus, elle vibre plus, elle sonne mieux. Et non seulement elle a des belles basses et des belles aigus, mais elle est beaucoup plus puissante que toutes les autres guitares que j'ai jamais rencontrées.
Un gain en acoustique du coup.
Voilà, il est dans une direction tout à fait intéressante qui prouve bien qu'on n'a pas fini d'inventer des choses, et loin de là. Quand on voit ce qu'il a... Moi, j'ai cette comparaison. J'avais deux guitares. Celle que je viens d'utiliser, qui est une guitare américaine en six cordes, Grammer Guitar, qui est, Gallagher Guitar, qui est un très bon luthier américain sur lequel, par exemple, Doc Watson a joué sur ces guitares-là. Donc, très, très bonne guitare. J'avais aussi une guitare de Alain Keguiner, considéré comme un des grands luthiers du monde en guitare folk. Bon, il est parisien. J'avais ces deux guitares et j'avais la guitare Audirac. Je me dis quand même, je vais faire la comparaison et j'ai posé tout de suite, à la première écoute, j'ai posé les deux guitares faites par d'autres luthiers dans leur caisse et j'ai continué sur la Gérard Audirac parce que trop, trop grosse différence. On avait l'impression qu'elles étaient bridées. Ces fabuleuses guitares, on avait l'impression qu'elles étaient bridées. Alors du coup, il y a les guitares Gérard Audirac et les autres.
Donc,
c'est assez extraordinaire.
Mais il pourrait t'en offrir une pour la pub.
Bah, il y a pensé, figure-toi. Ah, ouais. Plus, ouais, c'était toute une... Je sais pas où ça va aller cette histoire, mais bon, il est un peu fou aussi dans le bon sens du terme. Comme...
Ben, et s'il a envie de, si un jour il vient chez toi, invite-le à passer.
Ah ben, avec plaisir. Oui. Oui, c'est un personnage encore plus bavard que moi, ce qui est pas peu dire. Et vous aurez du mal à vous aurez du mal à vous en débarrasser parce qu'il est intéressant, quoi. C'est ça.
Oui, ben, ouais.
C'est ça.
Bah, rien que là, je bois passionnant. Tes paroles.
Et il connaît son sujet, quoi. Il va peut-être nous emmener quelque part, ce monsieur. C'est possible qu'il laisse des traces au niveau de la lutherie. Et puis, c'est pas fini. Hein. On dit toujours que tout a été inventé. C'est une connerie, ça. Tout reste à faire. Hein. L'essentiel même, sûrement.
Michel Gentil, on va arriver sur la fin de cet entretien. On va se quitter en guitare 12 cordes, s'il te plaît. Et puis rappeler, encore une fois, aux auditeurs de se rendre le 6 octobre à Minglon. 18h à la salle polyvalente qui est cette église qui est superbement réformée.
Mais, ouais, bien dit. Le fait que ce soit une église, ça joue hein, dans la qualité du son et dans la qualité du lieu aussi. Même
bah
si
ouais,
ça a été aménagé tout à fait autrement, ça reste bien, ça reste agréable. C'est justement, et c'est très convivial. Donc moi j'y crois, cet endroit. Je pense que ça peut être un beau lieu de concert, très agréable. Quoi. Voilà. Donc 18h samedi 6 octobre, venez nombreux. Voilà. Puis ça va être sympa comme tout.
Merci à toi, Michel. À bientôt.
À bientôt.